L'Afrique est un immense continent sur lequel circulent nombre d'idées reçues. Ces idées reçues nourrissent nos représentations géopolitiques avec, à la clé, quelques erreurs. Des erreurs fâcheuses qui se paient cher. La France vient d'être mise à la porte de plusieurs pays africains. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Voilà pourquoi Planisphère reçoit Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférences à l'Université catholique de Lille, auteur de « Afrique, idées reçues sur un continent composite » aux éditions Le Cavalier Bleu.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Sonia Le Gourielec.
Bonjour.
Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, actualiser nos fondamentaux ? Quelle est la superficie de l'Afrique, pour commencer ?
Alors, le continent africain, donc vraiment Afrique subsaharienne et Maghreb, Mashrek, c'est à peu près 30 millions de kilomètres carrés. Si je vous dis ça comme ça, je pense que vous n'avez pas d'idée de ce que ça peut représenter. Ça veut dire que c'est à peu près 8 fois l'Union européenne, la superficie de l'Union européenne. C'est 20% des terres émergées du continent, enfin de la planète. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des représentations parfois un peu biaisées parce qu'on est resté sur nos cartes de Mercator, qui, je vous le rappelle, avait été fait pour la navigation. Et donc, Mercator avait dessiné des globes. Et lorsqu'il a fallu en faire des cartes, il a fallu agrandir au niveau des pôles. Et effectivement, des continents comme l'Afrique se sont trouvés réduits. Donc aujourd'hui, on utilise plus des cartes comme celle de Peters qui permettent de mieux voir la taille véritablement que représente ce continent dans le monde.
Et quelle est la population du continent africain ?
Alors aujourd'hui, la population du continent africain serait à peu près de 1,5 milliard de personnes. Ce qui veut dire, pareil si on fait des comparaisons, l'Union européenne c'est 450 millions, donc c'est bien inférieur au continent africain. C'est à peu près égal à ce qu'on retrouve en Inde ou en Chine. Et ce qui est important, et je pense que ça va revenir tout au long de notre échange, ce qu'il faut regarder, c'est les dynamiques, les transformations, les mutations. Et le continent pourrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc, cette fois, plus que la Chine et l'Inde réunies.
Alors, la Chine et l'Inde, ce sont chacune des États. L'Afrique, c'est combien d'États ?
Alors, le continent africain, c'est 54 États. 54 États dans le Maghreb, les pays du Sud, d'Afrique subsaharienne. C'est des États totalement différents pour certains, des économies émergentes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, je prends vraiment les deux côtés, des pays qui ont un développement plutôt dynamique comme le Kenya, le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qu'on connaît particulièrement en France, des pays qui ont des difficultés politiques, des conflits. On parle peut-être suffisamment peu de ce qui se passe actuellement au Soudan, qui est catastrophique. On parle plus de ce qui se passe un peu plus à l'est du Congo, en RDC, peut-être moins encore de la République centrafricaine. Mais voilà, et malheureusement, souvent, on a la vision où on entend que ce qui va mal et les conflits qui se passent sur le continent. Puis on nous parle beaucoup aussi de l'Afrique francophone, que les Français ont des liens historiques plus forts avec ces pays-là. Et ce n'est pas ceux qui se portent le mieux. Du coup, ça participe d'une vision biaisée de ce qu'est véritablement le continent dans son entièreté.
Sonia Le Gourielec, pour commencer, penchons-nous sur une première idée reçue, ouvrez les guillemets, l'Afrique est condamnée à la pauvreté, fermez les guillemets. Qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est un des chapitres que j'ai essayé que j'ai eu dans l'ouvrage. L'idée à chaque fois n'est pas nécessairement de dire que c'est faux, mais d'avoir plus de nuances, de montrer plus de complexité. L'idée étant toujours de dire ça n'est pas un grand pays, le continent africain. Donc, il y a des dynamiques très, très, très différentes. Alors, le continent, le continent africain concentre plus de 62% des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Mais si on regarde un petit peu ce chiffre, il faut voir qu'il a beaucoup évolué. C'est toujours cette question de dynamique. En 1990, vous aviez 74% des pays africains qui étaient classés à faible revenu, alors qu'en 2022, ce pourcentage est tombé à 46%, donc moins de la moitié aujourd'hui. Ça, c'est particulièrement important. Donc on ne peut pas dire que c'est un continent qui est condamné à la pauvreté. C'est ça que je veux essayer d'expliquer, mais plutôt que c'est un continent en mutation, en transformation. Et l'Afrique, eh bien, ça n'est pas qu'une histoire de pauvreté. C'est ça que je veux qu'on garde en tête. C'est aussi une histoire de croissance économique impressionnante pour certains États. Des pays comme le Rwanda, des pays comme la Côte d'Ivoire affichent depuis plusieurs années des taux de croissance parmi les plus élevés du monde.
De quel ordre ?
Alors, pendant quelques années, alors si je prends un autre exemple, pendant quelques années, l'Éthiopie, jusqu'à 2017-2018, on parlait du miracle éthiopien avec des taux de croissance à deux chiffres, 12, 13, 14 %.
La France n'a jamais connu ça.
Alors, ils nous ont, oui, on pourrait les envier, effectivement.
Et à tel même point, pendant les Trente Glorieuses.
Exactement. À tel point que même les Chinois venaient installer leurs entreprises en Éthiopie. Parce que la main-d'œuvre y était moins chère et parce que c'était le miracle éthiopien. Ça s'est retourné pour des questions politiques, et puis ça dépend aussi de la gouvernance, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. On voit qu'il y a des pays où il y a un peu plus d'industrialisation également, par exemple en Afrique du Sud. On voit que des pays comme le Maroc ou l'Égypte deviennent aussi des hubs industriels ou des hubs technologiques. Donc, il faut également le noter, il faut avoir cette vision-là en tête. Et puis... En fait, le continent africain est pour beaucoup d'États, ce qui a pu les réunir, un point commun, ça a été quand même la colonisation. Et la colonisation a pu mettre en place des modèles économiques qui sont restés très longtemps après les indépendances. Et la colonisation était basée sur l'exportation de matières premières. Donc ça n'était pas transformé dans les pays, c'était transformé plutôt chez nous. On importait les produits. Ça reste une réalité, mais cette spécialisation forcée, elle est en train de changer. De plus en plus, la Côte d'Ivoire ne fait pas qu'exporter le cacao, mais le transforme dans son pays. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Le Ghana également, les grands exportateurs de pétrole vont avoir des industries de raffinage. Donc c'est en train d'évoluer petit à petit. Et puis, voilà, il ne faut pas avoir une généralisation hâtive de cette pauvreté généralisée, et comme si c'était une fatalité et le continent ne s'en sortira pas. Il faut voir qu'il y a une diversité économique aussi sur le continent. Et puis, le continent, les différents États dépendent aussi de leurs instituts. Alors, il y a quelques mois, je vous aurais parlé effectivement des États développementalistes, où l'État est vraiment derrière le développement, hein, parfois à marche forcée. Ça a été le cas en Éthiopie, au Rwanda, à Maurice. Là, c'est vrai que comme partout dans le monde, et je dis bien comme partout dans le monde, vous avez un recul démocratique sur le continent africain, un retour des souverainismes, comme partout dans le monde. Et en cela, c'est pour vous dire que le continent africain est mondialisé. Il suit les mêmes dynamiques qu'on observe en Europe, qu'on observe partout dans le monde.
Alors, on dit aussi de l'Afrique, ouvrez les guillemets, l'Afrique est surpeuplée, fermez les guillemets. Ça vaut quoi, cette idée ?
Alors, c'est aussi une idée à nuancer, ou en tout cas à regarder de plus près ce que ça veut dire. Je vous ai annoncé tout à l'heure des chiffres de 1,5 milliard, 2,5 en 2050. On a l'impression, effectivement, d'un continent qui déborderait. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est souvent une idée qui est véhiculée parce qu'il y a aussi une croissance très rapide des villes africaines. Et donc cette image d'une forte urbanisation, des bidonvilles, donc cette pauvreté qui se mélange, un rythme effréné, une frénésie autour de tout cela. Alors, effectivement, vous avez des grandes mégalopoles. D'ici 2035, vous avez tout un espace entre Lagos au Nigeria jusqu'à Abidjan en Côte d'Ivoire qui va former une grande mégalopole qui pourrait comprendre jusqu'à 51 millions d'habitants.
Un peu comme au Japon, dans un genre un peu différent.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est inattendu.
Mais peut-être pas organisé de la même façon au niveau des infrastructures. Le défi, il est là, plus que le surpeuplement. Et effectivement, c'est donc une population importante dans les villes. C'est aussi une population très jeune, à tel point que certains journalistes ont parlé de séisme de la jeunesse. Et c'est donc une population qui s'accompagne d'une forte fécondité. Alors, même si elle a évolué également, on a une espérance de vie en Afrique qui a augmenté également dans la plupart des États. Elle est passée de 49,4 ans en 90 à 62 ans l'année dernière. Donc, ça explique aussi cette importance. Donc, il y a une grosse transformation. Et du coup, les défis de l'Afrique ne viennent pas de ce nombre d'habitants, mais plutôt des infrastructures et de la façon d'organiser les ressources pour accueillir tous ces habitants.
Sonia Le Gourgielec, vous consacrez un chapitre à l'affirmation, ouvrez les guillemets, « L'Afrique est pillée par les puissances étrangères », fermez les guillemets. Pourquoi s'agit-il pour vous en partie d'une idée reçue ?
Alors, c'est en partie une idée reçue parce que, comme le reste, ça cache un ensemble de réalités. Du coup, ça biaise en partie la représentation qu'on a de ce qui se passe sur le continent africain. Il est indéniable que l'histoire du continent a été marquée par l'exploitation par des puissances étrangères. On l'a un petit peu vu tout à l'heure, notamment à travers la traite transatlantique, donc les esclaves au XVIe siècle, la ruée de l'Afrique vers l'Afrique au XIXe siècle, ce fameux partage du continent africain, la conférence de Berlin, qui véhicule aussi hein, ces mythes, mais bon, c'est une autre question. Et effectivement, le continent africain devenait... il y avait une ruée vers le continent africain pour se partager aussi ses richesses, etc. Et ça allait un héritage structurel aux économies qui est particulièrement fort. Mais il faut aller au-delà de cette vision de continent pillé, avec des guillemets, parce que les pays africains ne sont pas des acteurs passifs. Lorsqu'on dit ça, on a l'impression que ce sont des acteurs passifs qui subissent l'arrivée des Russes, des Français, etc. Ce sont on parle d'agency en relations internationales, ils ont une agité, je suis désolée, le mot n'est pas très joli, mais ça veut dire qu'ils ont leur propre stratégie. Ils ont leur propre stratégie et signent des contrats, acceptent cet échange. Alors parfois il est asymétrique, effectivement, mais il y a beaucoup de choses qui sont remises aujourd'hui en question. Antoine Glaser disait récemment que le continent africain, les présidents africains avaient le monde dans leur salle d'attente. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est une véritable compétition, concurrence, et ils ont du choix. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est bien, hein, je fais une observation, lorsque nous arrivons, en France, en Europe, etc., avec de l'aide, mais conditionnée, en fonction des efforts démocratiques, de gouvernance, etc., eh bien aujourd'hui, ils ont d'autres acteurs qui leur proposent bien plus et sans cette conditionnalité. Donc, ils ont le choix. Et on oublie, en fait, quand on parle de pillage, on oublie cette question de choix, de leur propre stratégie. Alors, je ne suis pas naïve, hein, je sais très bien que, je vous l'ai dit, il y a un recul des démocraties, que ce n'est pas nécessairement les populations qui vont bénéficier de ces échanges économiques, mais n'oubliez pas, il y a cette question, effectivement, de choix.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Sonia Le Gourielec, dans votre ouvrage « Afrique, idées reçues sur un continent composite » aux éditions Le Cavalier Bleu, vous abordez une question qui préoccupe, ouvrez les guillemets, « les migrants d'Afrique envahissent l'Europe ». Fermez les guillemets. Pourquoi s'agit-il pour vous en partie d'une idée reçue ?
Alors merci d'avoir dit « en partie ». Et effectivement, la question là encore est de déconstruire cette vision. On parle d'invasion, on parle de tsunami migratoire, on parle même parfois de grand remplacement. Il faut regarder ce que disent les faits. Et il y a une certaine logique, hein, à une époque où les néo-souverainismes se font de plus en plus importants partout dans le monde et en Europe également, ça se traduit en général par des politiques de sécurité, notamment migratoires, particulièrement fortes. Ça n'est pas le cas qu'en Europe et qu'en France. C'est partout dans le monde. On le voit avec Trump aujourd'hui, etc. Mais remettons un petit peu les chiffres en perspective. Quels sont les faits ? Selon l'Organisation internationale pour les migrations, entre 70 et 80% des migrations africaines se font en Afrique. 70 à 80% des migrations africaines se font en Afrique, sur le continent. Donc oui, la grande majorité des migrants africains ne quittent pas le continent lui-même. Ils restent sur le continent.
Pays à l'autre.
Exactement. Alors, chez le voisin ou dans la région.
Il y a des logiques, c'est quoi ? C'est lié aux guerres, c'est lié à la recherche d'un mieux-être ?
Alors, c'est lié à plusieurs logiques. Il y a des raisons économiques, oui. Quand il y a un fort taux de chômage, etc., beaucoup de jeunes vont chercher un travail dans les pays voisins ou plus loin. Il y a des raisons politiques et climatiques également. On a tendance à l'oublier. Politique, vous l'avez compris, avec de nombreux... vous avez des conflits au Soudan, Centrafrique, RDC, etc. Donc vous avez des populations qui soit se déplacent lorsqu'elles restent dans le même pays, soit se réfugient, qui deviennent des réfugiés lorsqu'elles vont dans des pays voisins. En cela, des pays comme l'Éthiopie, le Kenya sont les plus grands. C'est le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. Vous avez eu un ton un peu provocateur dans l'introduction de l'émission. Je dirais que des migrants, toute mesure gardée bien sûr, des migrants somaliens sont parfois mieux accueillis dans le nord du Kenya qu'en France, où ils ont des tentes, où ils ont des moyens, des ONG sont là pour les recevoir. Donc certains pays ont les capacités d'accueillir des réfugiés. Et vous avez également ces questions climatiques. Comme je travaille plus sur la Corne de l'Afrique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les phénomènes El Niño, El Niña, qui provoquent soit des inondations, soit des sécheresses, remettent en question justement l'agriculture. Et donc ça provoque le déplacement de populations pour aller chercher de la nourriture ailleurs dans des périodes de disette. Et ensuite, ceux qui quittent le continent africain, donc les migrants qui quittent le continent africain, ne vont pas nécessairement en Europe. Ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Beaucoup partent aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient. Les étudiants sahéliens vont aujourd'hui dans les pays du Golfe. Oui, c'est important de garder en tête parce qu'on a toujours cette vision un peu de surplomb, donc on rêve de venir chez nous. Pas nécessairement, non. On a une différence entre nous, notre continent plutôt vieillissant, les idées qu'on a du continent africain, et une jeunesse en Afrique qui s'en fiche parfois un peu et qui veut aller vers d'autres horizons. Donc oui, ils vont en Malaisie, ils vont dans les pays du Golfe faire leurs études, etc. Ou rêvent plutôt de l'Amérique du Nord, du Canada. Alors, bon, les États-Unis, vous comprenez, depuis quelques mois, c'est peut-être un petit peu moins l'idée. Mais on a parfois, effectivement, un biais médiatique qui va avoir tendance à se focaliser sur les migrants qui veulent venir en Europe, qui essayent de traverser la Méditerranée. Et ça remet en question une partie de la réalité migratoire. Ça, il faut bien l'avoir en tête.
Et alors, qui sont ces migrants? Est-ce que ce sont les plus défavorisés, les plus favorisés, ou les personnes des catégories sociales moyennes, et pourquoi?
Alors, justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ou à ce que ça pourrait laisser entendre, ça n'est pas nécessairement dans les pays les plus pauvres que la population migre, parce que justement, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour migrer. Donc, on va plus être sur des populations plutôt classe moyenne, où la famille va économiser justement pour aider l'un d'entre eux à pouvoir partir, et ensuite, il va participer beaucoup à l'économie du pays. Et c'est en cela où peut-être on a un peu loupé le coche, permettez l'expression, en Europe. Je vous l'ai dit, il y a une population très jeune, très dynamique, très innovante dans de beaucoup de pays africains. Et je pense que ça aurait été bon pour l'Europe d'accueillir, je parle pour ma paroisse, si je peux me permettre la radio ici, d'accueillir des universitaires de certains pays africains. Or, on a été parfois un peu humiliant, on a mis beaucoup de restrictions, comme vous le savez, au visa, en mettant un peu tout le monde dans le même panier, parfois. Et je pense qu'on est passé à côté de grandes opportunités qui auraient pu aussi changer l'image qu'on a sur le continent aujourd'hui.
Donc, ils sont allés ailleurs?
Oui.
Et est-ce que vous avez une idée, c'est un peu une question piège, pardonnez-moi, de ce qu'on appelle les remises, c'est-à-dire les fonds que les personnes qui ont quitté le continent et sont venues dans un autre pays, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, les fonds qu'ils renvoient dans leur pays d'origine?
Les rémittances, oui. Alors ça, c'est très divers en fonction, effectivement, des pays. On dit parfois qu'une personne en Europe peut faire vivre presque tout un village dans certains États. Ça peut être très important dans le PIB, dans l'économie de certains de ces États. Et la diaspora est aujourd'hui tellement importante sur le continent, enfin, en dehors du continent africain, mais elle est tellement importante pour le continent africain qu'elle a été déclarée comme nouvelle région du continent africain par l'Union africaine. Et elle joue un rôle aujourd'hui important, même politiquement, à tel point que vous avez des hommes politiques africains qui, lorsqu'ils font des campagnes électorales, vont à Washington, à Paris, pour faire des meetings, pour convaincre et faire campagne auprès de la diaspora qui va voter. Vous avez des pays comme le Ghana, l'Éthiopie, qui appellent au retour de cette diaspora, qui doit participer à l'effort de développement économique. Donc vous avez des programmes pour les faire revenir. Donc c'est vraiment un acteur majeur et important aujourd'hui. Et ça participe de cette idée d'une Afrique mondialisée.
Et comment est-ce que ces fonds sont utilisés?
Alors ça dépend vraiment pour le coup là des pays, ça peut être effectivement soit pour l'éducation des enfants, pour le développement d'infrastructures dans certaines villes, dans certains villages, participer à créer une entreprise pour certaines familles, des choses comme ça.
Sonia Le Gourgielec, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans nous pencher sur les difficultés françaises en Afrique. En quelques années, la France a perdu plusieurs points d'appui en Afrique. Alors lesquels et pourquoi ?
Alors, effectivement, la France avait une présence très forte sur le continent africain depuis les indépendances. On a toujours gardé une politique finalement sécuritaire, vraiment militaire et de sécurité, très forte sur le continent africain. Peut-être quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que lors du livre blanc de 2013, qui se préparait pour 2013, me semble-t-il, j'ai un doute entre le livre blanc de 2008 et 2013, il était question que la France limite sa présence en Afrique de l'Ouest. Donc là, on était avant Barkhane, Serval et des opérations qui ont eu lieu, enfin Serval et Barkhane, les opérations qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. L'idée était de garder un axe Gabon, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis. Ça a été totalement chamboulé, effectivement, par la lutte globale contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme. Je mets plein de guillemets parce qu'on ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme. Et donc, on a eu un réinvestissement très fort en Afrique de l'Ouest. Et on a conservé notre présence au Sénégal. On avait une forte présence au Mali. Et le pays où on a eu le plus d'interventions, qui est le pays qui est le Tchad. Et on avait également une base 43e Bima en Côte d'Ivoire, une présence au Gabon, une présence au Niger, etc. etc. Il s'avère qu'une présence de plus de 10 ans dans certains pays, pour la population, même s'il y a des victoires militaires, pour la population, c'est vécu comme une présence qui ne fonctionne pas ou qui est inefficace et comme finalement une forme d'occupation. Alors, le terme est très fort. Mais surtout, vous avez une population jeune qui ne voyait pas la gouvernance évoluer, les changements arriver. Il y a eu une sorte de frustration démocratique dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment de trois pays d'Afrique du Sahel plutôt, qui ont mené à des coups d'État. Et en fait, à une demande de la population d'un retour du militaire dans le champ politique pour faire avancer les choses, en quelque sorte. Et ces trois coups d'État militaires ont demandé à la France de partir. Je le dis gentiment, nous ont vraiment renvoyés. À la suite de ça, effectivement, il y a eu une élection au Sénégal où on nous a demandé également de partir. On nous a demandé de partir également du Tchad. Ça s'est fait plus doucement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la présence militaire française, elle est surtout au Gabon et donc à Djibouti.
Ça fait peu quand même.
Ça fait peu, mais peut-être que c'était un peu anachronique ces présences militaires. Peut-être que déjà nous n'avions pas vu le continent évoluer. Peut-être que déjà nous n'avions pas entendu les attentes de la jeunesse africaine, de ces jeunes, etc. et ce qu'ils voulaient. Je pense qu'il y a eu véritablement, alors c'est pas nouveau, c'est pas moi qui le dis en particulier, mais il y avait une vision assez en surplomb de la France, du continent africain, qu'on n'a pas vu évoluer, qu'on n'a pas compris. On est resté sur des grilles d'analyse peut-être passées. Et aujourd'hui, il n'est plus question de dire que la France est concurrencée. La France est battue en Afrique.
Vous êtes dur.
Oui. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, frappent à la porte ou sont dans les salles d'attente.
Alors,
des présidents.
Qui sont ces acteurs ?
Donc, on a beaucoup parlé et la France n'a pas fait son mea culpa et les erreurs qu'elle a pu commettre sur le continent africain parce que c'était la faute de la Russie. Alors oui, la Russie est présente. Oui, la Russie a utilisé ses outils parfois d'infox, de fausses informations, de fake news contre la France. On a peut-être mis un peu de temps à y répondre d'ailleurs. Il fallait très rapidement y répondre. C'est facile de dire ça maintenant à ma place. Mais la Russie a historiquement une présence pendant la guerre froide, etc. en Afrique. Mais c'est vrai qu'elle est revenue, ne serait-ce que par ses entreprises, enfin ses milices comme Wagner et aujourd'hui Africa Corps. Ils sont très présents aussi dans le camp de l'Afrique, donc au Centrafrique et en Afrique de l'Ouest. La Chine, évidemment, depuis 2013 et le lancement de l'initiative Belt and Road Initiative, donc cette nouvelle route de la soie passe en partie par le continent africain et notamment l'Afrique de l'Est. Et depuis 2017, la Chine a aussi une base militaire à Djibouti. Vous avez également l'Inde qui commence à se réintéresser fortement au continent africain parce que la côte est africaine fait partie de cette stratégie indo-pacifique que de nombreux pays, dont de nombreux pays font une priorité, et la France également. Donc, ça réintéresse aussi au pays. Mais les pays du Golfe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je dis les pays du Golfe en pensant les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas toujours alignés, comme on peut le voir au Soudan. Je pense à la Turquie qui a multiplié un nombre considérable ses représentations diplomatiques sur le continent africain. La Turquie qui fournit parfois beaucoup de drones dans certains conflits. Ça a sûrement participé à la victoire du gouvernement fédéral en Éthiopie contre la rébellion du Tigray, qui, je vous rappelle, est le conflit le plus meurtrier de ce début de XXIe siècle, avec près de 600 000 morts.
Sonia Le Gourielec, pour en savoir davantage à propos de l'Afrique, nous pouvons d'abord lire avec plaisir et bénéfice votre livre « Afrique, il est reçu » sur un continent composite aux éditions Le Cavalier Bleu. Est-ce que vous auriez quelques autres références à nous indiquer pour suivre et comprendre l'actualité africaine ?
Alors, ça a été la question crève-cœur. Parce que, oui, là, vous me parlez d'un continent. Alors, est-ce que je parle... C'est comme ça, du coup, je vais en placer plusieurs. Est-ce que je parle de romans ? Et je vous dirais, regardez, Chimamanda Adichie Ngozi, qui vient de faire la promotion de son dernier ouvrage, et donc qui est nigériane. Je pourrais vous parler de Chinua Achebe, je pourrais vous parler de Emle Boum, Fatou Diom, Gaël Faye, Marie Ndaye, etc. etc. Peut-être si vous voulez mieux comprendre comment l'Afrique a été aussi construite dans les discours occidentaux, cette altérité. Peut-être Valentin Yves Moudimbe, dont on a enfin publié l'ouvrage « L'invention de l'Afrique ». Peut-être, si vous voulez mieux comprendre aussi les questions ethniques sur le continent, parce que dès qu'il y a un conflit, il est forcément ethnique, il faut aller plus loin, il faut voir le politique qu'il y a derrière. Je vous dirais de lire « Les ethnies ont une histoire » de Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier. Et puis peut-être aussi, je rends hommage à ceux qui ont écrit un ouvrage « Idées reçues avant moi ». Je pense à Hélène Dalméda-Topor, Georges Courade et Philippe Hugon.
Merci Sonia Le Gourielec. Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille, auteure de « Afrique, idées reçues sur un continent composite », édition Le Cavalier Bleu. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.